Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant, Paraquad. Au programme, les para-jokes de Laurie Ève. La réadaptation, le point de vue d'une conseillère principale en intégration de Mémo Québec. Et Impact, rétention des patients hors du centre d'expertise pour blessés médulaires de l'Ouest du Québec. Bonne écoute!
Les para-jokes de Laurie Ève, un texte de Laurie Ève Côté paru dans le numéro 158, automne 2022, du magazine Paraquad. Diplômée au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire à l'Université de Montréal, Laurie Ève Côté œuvre chez Mémo-QC en tant que conseillère principale en intégration depuis septembre 2020. Auparavant, elle a travaillé comme éducatrice dans différents CPE de la ville de Montréal. Devenue paraplégique à la suite d'un accident de glisse en 2015, cela ne l'a pas freinée dans son désir d'avoir un mode de vie actif. Natation, musculation, basketball en fauteuil roulant et bénévolat, entre autres pour le CIVA, dont elle fait partie du conseil d'administration. Elle n'a pas chômé depuis. Elle a également pris part à des émissions de télévision pour parler de son handicap et de son vécu afin de briser les tabous reliés à la paraplégie. Dans son rôle de conseillère, elle est connue pour son dynamisme et valorise une approche basée sur le respect et l'écoute active. Je suis contente de vous trouver en cette 7e édition. Et oui, déjà 7, ça va vite. Pour les nouveaux lecteurs, bienvenue dans mon monde de para-jokes. Je suis convaincu que vous avez, vous aussi, déjà vécu des situations semblables. Je vous invite à m'envoyer vos propres anecdotes à mon adresse courriel lcote@moilepinière.com. Qui sait, elles seront peut-être publiées dans la prochaine édition du Paraquad. Je ne suis sûrement pas la seule à me faire interpeller par des inconnus qui se questionnent sur mon état. Un monsieur d'un certain âge m'a demandé « T'en as pour combien de temps là-dedans ?» tout en pointant mon fauteuil roulant. « Au moins une quarantaine d'années, en tout cas, je l'espère. » Un peu comme le caissier du dépanneur près de chez moi qui a demandé à une de mes amies « Ton ami, es-tu guéri ?» Et non, toujours pas guéri. Cette anecdote est spéciale car elle ne concerne pas mon handicap, mais celui d'un ami. Et oui, on peut faire des para-jokes avec n'importe quel handicap. Mon ami m'a donné la permission, promis. Mon ami Benjamin est sourd de naissance. Avec d'autres amis, nous avons une conversation de groupe sur Facebook Messenger afin de nous tenir au courant des événements auxquels nous participons ensemble. Un soir, où nous étions tous en discussion, mon amie Sabrina, qui était occupée, a commencé à envoyer des messages vocaux dans la conversation pour sauver du temps. Disons que Benjamin n'a pas eu accès à ces informations. Comme sûrement beaucoup d'autres, j'utilise un banc de toilette pour faire mes soins. Une soirée où j'avais plusieurs amis à la maison, je devais constamment replacer mon banc à chaque fois que j'allais à la salle de bain. Soit il était complètement enlevé ou soit remis du mauvais côté. À la fin de la soirée, je m'exclame à mes amis « Coudon, avez-vous peur de devenir paraplégique en vous asseyant dessus ?» Une amie m'a donné un certificat pour un massage à domicile afin de me remercier d'avoir gardé son chat pendant une semaine. Avant de recevoir le soin, il faut remplir un formulaire en ligne. Cette question à propos de ma posture au travail m'a fait bien rire. Quel est ton travail? Conseillère en intégration. Votre posture au travail? La plupart du temps assis. avez-vous été des nôtres le 22 septembre dernier lors du souper-spectacle soulignant les 75 ans de l'organisme? La soirée fut réellement une réussite. L'organisation n'a pas été de tout repos. Certains membres de l'équipe se demandaient même s'il y avait une vie après le souper-spectacle. Lors d'un Zoom réunissant les employés et quelques bénévoles qui avaient des tâches lors de l'événement, ma patronne, Nathalie, nous donne quelques conseils au niveau de l'habillement. Bon, ce n'est pas un gala, mais on s'habille de bon goût. Pour les chaussures, ce n'est pas la soirée pour casser une nouvelle paire de souliers. Vous risquez d'être souvent debout, alors choisissez quelque chose de confortable. Disons que je ne me suis pas senti concerné par ces précieux conseils. J'ai quand même mis une paire de souliers confortables, juste au cas où. Récemment, j'étais en voiture avec un de mes amis, Jean-Philippe. Il devait faire un arrêt chez lui, car son ancien voisin Jérémy venait lui emprunter son casque pour faire de la moto. Arrivé chez lui, nous discutons et Jérémy me demande si j'ai eu la chance de faire de la moto avec Jean-Philippe ou pas encore. Je lui réponds que non, car je suis en fauteuil roulant, donc ça serait un peu compliqué. Jérémy, un peu mal à l'aise, « Ah, OK, je comprends. Bon, peut-être l'année prochaine, alors ?» Je n'ai pas osé lui dire que l'année prochaine, j'allais très probablement encore être en fauteuil roulant. Après 7 ans et demi, disons que c'est un peu définitif comme condition. C'était les Parajokes de Lauriev, un texte de Lauriev Côté paru dans le numéro 158, automne 2022 du magazine Paraquad.
La réadaptation. Le point de vue d'une conseillère principale en intégration de Mémo Québec. Un texte d'Adèle Liliane Gault-Mem-Knock, paru dans le numéro 159 hiver-printemps 2023 du magazine Paraquad. Parlez-moi de vous. Je travaille depuis 15 ans à Mémo Québec et depuis ce temps, j'exerce mes fonctions comme conseillère principale en intégration à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, IRGLM. Je travaille dans le cadre du programme Lésions médulaires. J'y suis avec deux collègues de Mémo Québec. Mon rôle est d'accompagner les nouveaux blessés médulaires qui entrent dans le continuum de service de l'hôpital Sacré-Cœur vers l'IRGLM. Je suis moi-même tétraplégique depuis 35 ans. En quoi consiste votre travail à l'IRGLM? Je fais de l'accompagnement en centre de réadaptation. Je participe et organise des activités d'intégration sociale afin de préparer les patients au retour dans la communauté. Je fais également de l'accompagnement psychosocial qui consiste en de l'écoute active. Au besoin, j'accompagne aussi les familles, conjoints, parents, enfants. Qu'avez-vous observé comme problème chez les patients que vous accompagnez? Depuis 15 ans, la qualité des soins a diminué parce qu'il manque de personnel. Les gens qui sont là font leur possible, mais la clientèle a augmenté. Avant, il y avait moins de 20 patients. Maintenant, lorsque l'étage est plein, il y a 25 patients et ce sont souvent des cas lourds. La clientèle est aussi vieillissante. Il y a plus de personnes âgées, le séjour est plus court. Quand les gens arrivent en réadaptation, ils doivent être stables au plan de la santé car ils doivent apprendre leurs exercices plus rapidement. La durée du séjour dépend de chaque patient. S'il apprend vite, il sort plus vite. Il faut maîtriser les soins et les transferts avant de sortir de l'IRGLM. Le continuum de service n'est pas toujours respecté, c'est-à-dire que tous les patients de l'ouest du Québec ne passent pas toujours par le centre d'expertise pour blessés médulaires de l'ouest du Québec, qui est composé de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal et du Centre de réadaptation Lucie Bruneau. Plusieurs personnes passent par l'Hôpital général de Montréal. Ces personnes sont certainement bien traitées au niveau de la traumatologie, mais pour le reste, la clientèle en paie le prix. Ce qu'on voit chez ces patients à leur arrivée à l'IRGLM, ce sont des plaies de pression qu'ils ont développées parce que le personnel de l'hôpital général n'est peut-être pas au courant des besoins spéciaux d'un nouveau blessé médulaire. Ces personnes ont besoin d'un matelas orthopédique et d'être retournées toutes les 2 heures. Une petite rougeur n'est pas banale pour un blessé médulaire, car elle peut empirer rapidement et devenir un trou béant. On voit aussi que les équipes soignantes comptent sur la présence des parents ou des proches pour prodiguer les soins qu'elles ne peuvent pas prendre le temps de donner, parce qu'elles savent que ceux-ci vont bien s'occuper de leur enfant ou de leurs proches. Sinon, le patient est laissé à lui-même. Qu'est-ce que la pénurie d'employés engendre comme problème chez ces patients? Il y a un manque criant de professionnels comme les sexologues, les travailleurs sociaux et les techniciens, pour ne citer que ceux-là. Le manque de sexologues fait en sorte que les personnes qui ont besoin de cette ressource n'ont personne pour répondre à leurs questions. En conséquence, c'est un pan de leur vie qu'elles vont devoir mettre de côté. En ce qui concerne les travailleurs sociaux, il y a un travailleur social et demi pour 25 patients. Avec un tel ratio, il n'est pas possible d'aider ces gens à chercher un logement adapté. Comment est-ce possible de bien préparer un retour à domicile dans le contexte de la rareté de logements accessibles, entre autres? Concernant les ressources techniques en matière d'aide à la mobilité, il y a un manque de personnel qui a pour conséquence des délais d'attente qui sont plus longs pour les réparations, la prise de mesures ainsi que les livraisons de nouveaux fauteuils roulants. Et pendant ce temps, l'état des patients peut s'aggraver. En 2023, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour améliorer la condition de vie de ses patients? Le système de santé est malade. Il faut l'améliorer. Si on reconnaissait nos besoins dans les hôpitaux, ce serait une bonne chose. En effet, dans les hôpitaux, les soins infirmiers ne connaissent pas bien les cathétérismes et les soins vésicaux, les curages ou soins intestinaux, etc. Il y a un manque d'équipements spécialisés pour les blessés médulaires. Lorsqu'il y en a, le personnel ne sait pas l'utiliser. À l'hôpital, il y a des gens qui nous portent comme un sac de patates ou risquent de nous faire mal et de se faire mal à eux-mêmes. Il faut qu'on cesse de demander aux patients s'ils peuvent se lever. Les gens ne comprennent pas et n'arrivent pas à faire la différence entre une personne âgée qui peut marcher lentement ou difficilement et une personne en situation de handicap qui ne le peut tout simplement pas. À titre personnel, étant vous-même blessé médulaire, sur quels enjeux est-il urgent que le gouvernement intervienne en 2023 pour améliorer la condition de vie des personnes en situation de handicap? Les services à domicile sont une priorité pour l'autonomie des gens. Ensuite, il y a l'accessibilité universelle. Enfin, il y a le transport adapté, TA. Étant une personne non transférable, c'est-à-dire que je ne peux pas me transférer sur le siège d'une voiture ordinaire si j'ai une urgence, quelle qu'elle soit, je ne peux pas avoir un TA en temps réel. Si j'ai besoin d'un déplacement pour une raison médicale, on me dira d'appeler l'ambulance. Il faut que cela change. C'était la réadaptation, le point de vue d'une conseillère principale en intégration de Mémo Québec, un texte d'Adèle Liliane Gaume-Bendknock, paru dans le numéro 159 hiver-printemps 2023 du magazine Paraquad. Impact. rétention des patients hors du centre d'expertise pour blessés médulaires de l'Ouest du Québec. Un texte d'Adèle Liliane Gaumen-Gnoc, paru dans le numéro 159 hiver-printemps 2023 du magazine Paraquad. Les personnes connaissant un tant soit peu la population des blessés médulaires savent qu'une prise en charge rapide et adéquate par les centres hospitaliers spécialisés est essentielle à une réadaptation optimale. Pour l'Ouest du Québec, malheureusement, force est de constater que l'on observe toujours la rétention de patients dans des centres hospitaliers autres que le Centre d'expertise pour les blessés médulaires de l'Ouest du Québec, CEBMOQ. Non seulement est-ce contre les directives gouvernementales, mais cela génère en plus de très graves conséquences au niveau de la vie et de la condition de santé de plusieurs de nos membres. Rappelons que le CEBMOQ est constitué de l'Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, IRGLM, et du Centre de réadaptation Lucie Bruno. Ces établissements sont les seuls à avoir le mandat de prendre en charge les personnes blessées médulaires de l'Ouest du Québec. Notons qu'il y a aussi un centre d'expertise pour blessés médulaires de l'Est du Québec, CEBMEQ, qui s'occupe de la clientèle de l'Est du Québec. Il est composé de l'hôpital Enfant-Jésus et de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Ces centres ont été créés en 1997 à la suite de deux décennies de représentation et de pression de la part de Mémo Québec, jadis nommée l'Association des paraplégiques du Québec. Les centres d'expertise ont été mis sur pied dans le but de mettre en réseau serré des professionnels sur-spécialisés dans le domaine des lésions médulaires traumatiques, de rendre officiel ce réseau et de formaliser et d'assurer le respect des ententes entre établissements. Comme le nombre de personnes ayant une lésion médulaire traumatique est relativement restreint, la concentration de l'expertise, de la connaissance et de l'expérience des professionnels de la santé dédiés au traitement et à la réadaptation des personnes ayant une lésion médulaire permet d'assurer des soins de qualité à la population médulo-lésée de l'ensemble du Québec. Ces centres permettent de réduire la mortalité liée à une blessure médulaire et permettent une meilleure récupération des capacités motrices et physiques. Effectivement, les actes qui y sont pratiqués sont d'une importance décisive. Dans un premier temps, lors des soins aigus, les équipes de traumatologie stabilisent le patient et mettent en œuvre toutes leurs compétences d'équipe surspécialisée pour que les séquelles soient le moins graves possible et afin qu'à la deuxième étape de la trajectoire de soins, il y ait un plus grand potentiel de récupération. La deuxième étape est celle de la réadaptation fonctionnelle intensive. C'est elle qui permet au patient de travailler sur sa nouvelle autonomie. Le non-respect de ce continuum peut donc mettre en danger les patients au point où certains se retrouvent hypothéqués par d'autres complications pour le reste de leur vie. C'est le cas de 4 patients qui ont tous été conduits à l'Hôpital général de Montréal à la suite de leur accident. Durant leur hospitalisation, ils ont développé des plaies de pression de stade 4, soit une lésion qui atteint le muscle, l'os ou le tendon et l'articulation. Étant donné la fragilité de la peau des personnes blessées médulaires, ce type de plaie a des séquelles irréversibles et survient fréquemment dans les centres hospitaliers où les professionnels ne sont pas formés et sensibilisés à la condition de ce type de patient. C'est le cas, notamment, de messieurs Johan Lauzon, Kevin Dubé, Antoine Laporte, ainsi que Martin Poutre, qui ont tous été hospitalisés à l'Hôpital général de Montréal. Monsieur Johan Lauzon a fait une chute en tombant d'un balcon du deuxième étage de son appartement le 1er juillet dernier. Il est devenu paraplégique à la suite d'une blessure médulaire au niveau de la vertèbre dorsale D2. Il a été transporté à l'Hôpital général de Montréal. Il a été dans le coma pendant un mois. il a développé une plaie de pression de stade 4 au niveau du sacrum parce qu'on ne le retournait pas dans son lit, à moins qu'il n'en fasse la demande explicite. Il s'agit d'une mesure préventive visant à empêcher la formation ou l'aggravation de plaies de pression en évitant que le corps paralysé soit trop longtemps en contact avec le matelas dans une même position. Il a quitté l'hôpital général le 26 septembre et est ensuite allé faire sa réadaptation à l'IRGLM. Vous écoutez Impact. Rétention des patients hors du centre d'expertise pour blessés médulaires de l'Ouest du Québec. Un texte d'Adèle Liliane Gaumain-Nock, paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023 du magazine Paraquad. Monsieur Kevin Dubé est devenu paraplégique à la suite d'une blessure médulaire au niveau de la vertèbre dorsale D4. Cette blessure a été causée par la chute d'un arbre sur lui le 26 juillet dernier. Il a été admis à l'hôpital général de Montréal où il y a passé 2 mois. Il a été dans le coma. Il ne se souvient pas de la durée de celui-ci puisqu'il a eu un traumatisme crânien à la suite de cet accident. Il a développé une plaie de pression assez grave au niveau du coccyx. Il ne se souvient pas du stade de celle-ci. Monsieur Antoine Laporte a eu un accident de motocross à la suite duquel il est devenu paraplégique. Sa blessure médulaire est située au niveau de la vertèbre dorsale D6 Asia A. Il a été admis à l'hôpital général de Montréal. Il a passé 11 jours dans le coma. Par la suite, il a développé une plaie de stade 4 sur le coccyx. Il n'a pas été retourné dans son lit à toutes les 2 heures, une précaution minimale pour éviter la formation de plaies de pression. M. Martin Poutre est devenu tétraplégique le 19 juin 2022 à la suite d'un accident de voiture. Sa blessure médulaire est située à la vertèbre cervicale C6. Il a été conduit à l'hôpital général de Montréal où il a passé 2 mois et demi dans le coma et 3 mois et demi de plus d'hospitalisation pour un total de 6 mois. Parce qu'on ne l'a jamais retourné durant son coma, il y a développé 2 plaies, dont une très grave au coccyx qui mesurait 17 cm sur 14 cm et 11 cm de profondeur. Il ne connaît pas le stade de cette plaie. Elle n'est pas encore guérie. Il en a eu une autre à la tête qui est maintenant guérie. Mémo Québec a pourtant dénoncé à plusieurs reprises le manque de respect de la trajectoire que doit suivre toute personne blessée médulaire dans le CEBMOQ. Nous l'avions d'abord fait auprès de Mme Danielle McCann le 19 mars 2019. À ce sujet, le 24 septembre 2019, lors de la période de questions de l'Assemblée nationale, elle avait dit que les ententes de transfert interétablissement qui sont en processus de révision seront prêtes pour le déploiement à l'automne 2019. La signature des ententes par tous les établissements concernés sera suivie de manière très serrée par le M3S. Enfin, à la suite de la signature des ententes de transfert interétablissement, le M3S verra à la possibilité de mettre en place des mesures coercitives pour les établissements qui ne respectent pas les corridors préétablis. De même, le 1er décembre dernier, nous avons écrit à M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, et à M. Lionel Carman, ministre responsable des Services sociaux, pour leur faire part de cette situation, et nous n'avons eu aucune réponse. Nous souhaitions savoir, d'une part, si les ententes mentionnées dans la réponse de Mme McCann avaient été signées et, d'autre part, quelles mesures coercitives avaient été mises en place afin de faire respecter le continuum de service. Soulignons que les centres d'expertise CEBM sont un fleuron de la médecine en traumatologie au Québec, avec des expertises à la fine pointe et des équipes multidisciplinaires qui travaillent pour assurer une qualité de soins exemplaire. Or, au fil du temps, et face aux multiples enjeux financiers et de pénurie de personnel auxquels les CEBM sont confrontés, nous craignons une perte de cette expertise. Conséquemment, ce sont les personnes blessées médulaires qui en subissent déjà les conséquences et en paient le fort prix dans leur chair. Ainsi, en 2023, Mémo-Québec s'engage à multiplier les interventions auprès des institutions concernées pour que soit respecté le continuum de soins et de services établi par le ministère en lien avec les centres d'expertise pour blessés médulaires. Une analyse plus approfondie soit faite des mécanismes de décision qui conduisent au non-respect de cette trajectoire. On pourrait se demander comment se fait-il que les ambulanciers amènent un patient à un hôpital autre que l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Soient mis à jour les mécanismes décisionnels afin de s'assurer du respect de la trajectoire de soins des blessés médulaires. Soient sanctionnés les établissements qui ne respectent pas ce continuum. Les centres d'expertise maintiennent et continuent à développer leur expertise en mettant tous les moyens nécessaires en place pour qu'ils aient les ressources humaines, financières et matérielles dont ils ont besoin. C'était Impact, rétention des patients hors du centre d'expertise pour blessés médulaires de l'Ouest du Québec, un texte d'Adèle Liliane Gaumen-Knock, paru dans le numéro 159 hiver-printemps 2023 du magazine Paraquad.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.